Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous arrivez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. J'ai une heure pour vous montrer qu'il y a autour de vous des hommes et des femmes de talent qui croient en leurs idées et en leurs idéaux et qui construisent la société de demain. C'était hier la journée mondiale de la santé. Comment l'améliorer? Comment nous aider aussi au quotidien à prendre tout simplement nos traitements? Vous allez voir que des Français ont trouvé un début de réponse. Elle existe depuis le 18e officiellement, mais en cherchant bien, on la retrouve même avant. Les Anis de Flavigny est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis aider des entrepreneurs issus de milieux défavorisés à éclore, c'est l'ambition de Connexio et c'est la solution. Ce lundi, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, on vous attend comme chaque jour jusqu'à 14h. On parle santé aujourd'hui avec vous et avec nos invités, Anissa.
Oui, venez nous dire comment se passe votre quotidien. Si vous devez prendre des médicaments, vous avez certainement des questions à poser aux invités de Raphaël Duchemin. Eh bien, n'hésitez pas, c'est dès maintenant que ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au standard Europe 1. Pour rappeler Europe 1, c'est le 39-21, 50 centimes la minute.
Saviez-vous qu'on a gagné en moyenne 5 ans d'espérance de vie depuis l'an 2000? C'est un calcul à l'échelle mondiale, bien sûr, mais si on regarde de plus près, les inégalités se creusent. On vit par exemple 18 ans de plus dans les pays riches que dans les pays pauvres. Mais de gros progrès ont été faits, notamment pour enrayer la mortalité infantile grâce aux traitements et aux soins. Et vous allez voir que nos invités y sont aussi pour quelque chose. Pour les accueillir, comme chaque jour, Elisabeth Assayag est là. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Laurent Chauhin, DRH du groupe Mazars. Bonjour Laurent.
Bonjour Raphaël.
Il y a des gens autour de nous qui plaquent tout pour s'investir dans une cause. C'est ce qu'a fait notre invité avec une ambition, avoir un impact sur la santé dans le monde, rien que ça. Bonjour Christophe Doha.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'un des fondateurs de Médincel, entreprise basée à Montpellier. Je sais que c'est important parce que vous dites là-bas, il y a le soleil.
19 degrés, on a entendu tout à l'heure.
Exactement. Vous avez découvert justement là-bas à Montpellier, dans un laboratoire, une nouvelle technique de traitement injectable parce que, disons-le tout de suite, c'est un des sujets majeurs pour l'OMS, pour l'Organisation Mondiale de la Santé, la prise de médicaments aujourd'hui.
Tout à fait. En moyenne, un patient sur deux ne démarre pas ou ne prend pas son traitement, nous y compris. Et quand on ne le prend pas, notre condition s'aggrave, on est réhospitalisé. Et donc c'est mauvais pour le patient et puis ça coûte extrêmement cher aussi au système de santé.
Donc vous, vous proposez au lieu de prendre des cachets matin, midi et soir, une solution pour injecter le traitement sous la peau. Et ce traitement va, si je schématise, se libérer petit à petit dans l'organisme.
C'est exactement ça. En fait, l'injection forme une petite boule de la taille d'un petit pois sur la peau. Cette petite boule va se dégrader sous l'effet de l'eau qui est présente sous la peau et va libérer le médicament de façon sécurisée pendant une période choisie.
Alors, voilà. J'ai un petit prototype avec moi. Si vous nous suivez sur Europe1.fr, on va faire une petite démonstration pour que ceux qui nous suivent sur Europe1.fr puissent comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Alors, vous allez décrire pendant que je verse.
Tout à fait. Donc, on voit dans la petite fiole là, un liquide légèrement visqueux, transparent. Et en fait, on va simuler ce qui se passe quand cette formulation est injectée sous la peau en la versant dans l'eau.
Alors, j'y vais.
Donc on voit que cette formulation, en fait, s'est solidifiée instantanément au contact de l'eau. Alors là, ça forme un serpentin, mais sous la peau, ça formera un petit pois qui va se dégrader sous l'effet de l'eau et libérer le médicament de façon sécurisée. C'est un peu si, comme à Médincel, on avait fabriqué une mini-pompe virtuelle qui soit injectable, libère le médicament pendant la période choisie.
Voilà, on a quelque chose qui s'agglomère finalement et qui est comme du gel qui sera sous la peau.
Exactement. C'est un gel qui est inoffensif puisqu'il est fabriqué à partir de matières qui sont déjà utilisées dans la pharmacopée.
Alors, vous avez été aidé pour concevoir ce produit, justement, je crois, par la fondation Bill et Melinda Gates, par des laboratoires aussi qui sont derrière vous pour justement que ce soit distribué le plus largement possible.
Tout à fait. Dans la fondation de la société, on a une vision de base très forte qui était que notre technologie soit déployée dans le plus d'indications possible. Là, on pouvait faire une vraie différence. et dans tous les pays du monde. Hein, on a été choisi donc par la fondation Bill et Melinda Gates pour faire développer un système de contraception qui va durer 6 mois après une injection.
Ça veut dire qu'on est sur des traitements de courte durée, sur des traitements de longue durée pour l'instant, sur des produits bien spécifiques pour des maladies bien spécifiques. Je pense à la malaria, par exemple.
Alors, ça va dépendre évidemment de la maladie, puis aussi de la molécule en question, hein, puisqu'à chaque fois, il faut redéfinir cette formulation pour s'adapter à la molécule. Mais dans nos traitements les plus avancés contre la schizophrénie, on est sur des durées de 1 mois ou 2 mois, sur la contraception, 6 mois. Dans la douleur, on peut être aussi sur des durées de 1 mois ou dans l'anesthésie de 1 semaine. Donc la technologie est très flexible et on l'adapte aux besoins médicaux.
Elisabeth, on se situe comment, nous, Français, par exemple, dans la consommation de médicaments ?
On n'est pas des très bons élèves, hein, vous venez de le dire, hein, c'est vrai, par rapport à nos amis européens. Les prescriptions inappropriées et il y a aussi un usage irrationnel hein, des médicaments, c'est très fréquent dans notre pays. Tiens, je prends l'exemple des antibiotiques. La France reste le 3e pays qui en prescrit le plus derrière la Grèce et la Roumanie. Et très souvent, hein, je suis sûre qu'on se reconnaît tous là-dedans, on ne termine pas le traitement.
Et oui, c'est ce que vous disiez, un patient sur deux qui est concerné, soit parce qu'on ne démarre pas le traitement, soit parce qu'on ne va pas au bout. Que dit notre coach de cette initiative, Médincelle, qui a été primée hein, au trophée Let's Go France de nos amis de PwC ?
Tout à fait, la semaine dernière.
Laurent ?
C'est-à-dire, justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est comme s'il y avait des divisions, finalement. C'est-à-dire les tests de niveau 3. Et vous, j'ai cru comprendre, votre société a des degrés de reconnaissance parce que vous développez, qui sont tout à fait remarquables internationalement et y compris auprès de financeurs qui sont des financeurs de haut niveau. Donc, il y a cette notion de niveau dans les gens qui peuvent faire ça.
Alors, on a effectivement, notamment grâce à cette mission hein, de santé globale, pu attirer des gens de talent avec des compétences remarquables. Mmh. On est passé de 7 personnes en 2009 à plus de 135 aujourd'hui. Et sur les 135, on a 30 nationalités. Hein, donc, ils sont venus du monde entier pour rejoindre la mission et avoir un impact sur la santé dans le monde.
Anissa ?
Alors, on l'a bien compris, c'est une solution injectable qui va avoir une action très prolongée. Vous parliez de la contraception qui va durer 6 mois. Financièrement, ça se situe comment ? Est-ce que ça coûtera le prix de 6 mois de contraception ? Est-ce que ça sera moins cher, plus cher ?
Alors, à la base, justement, de cette vision, c'est on pense que en vendant nos solutions pharmaceutiques dans le monde entier, on aura des prix plus bas, hein, par l'effet volume. Mm-hmm. Et donc, on s'adaptera aux conditions locales.
C'est pas une technique qui est beaucoup plus chère ?
Non, c'est une technique à très bas coût. Et justement, avec la fondation, on va atteindre des prix
Il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas le même conditionnement que pour un traitement, par exemple, avec une boîte, des cachets,
voilà.
etc.
Par contre, il y a une seringue qui coûte peu cher, mais avec la fondation Gates, on va atteindre des prix de moins de $2 par injection pour 6 mois.
Et on peut se l'injecter soi-même ?
Alors, dans ce cas-là, oui. D'accord. Dans ce cas-là, ça sera injecté par le patient lui-même. Dans d'autres cas, comme pour les patients schizophrènes, ça sera le clinicien, le médecin qui fera l'injection.
C'est plus simple, évidemment, pour des pays, par exemple, qui sont en voie de développement, où on n'a pas forcément de réseau de distribution de médicaments. C'est là-dessus que vous basez, hein, pour dire que c'est vraiment l'avenir.
Alors, c'est un autre atout, hein. Vous avez raison, c'est que quand on fait une injection tous les 2 mois, tous les 6 mois, on n'a pas besoin d'aller voir son médecin ou l'hôpital plus souvent. Hein. Donc, ça améliore, évidemment, l'accès aux soins.
Et puis, ça évite aussi pas mal de déchets médicaux. On en parlait, les boîtes, etc.
Exactement.
Ça veut dire qu'on est plus propre.
Oui, tout à fait. Et puis quand un patient ne prend pas ses médicaments, vous l'avez tous fait, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, les bons élèves vont les ramener à la pharmacie, mais les autres
les jettent.
Les jettent, voilà. Et ces médicaments qu'on jette polluent l'eau, polluent les décharges, etc.
C'est important de dire qu'une fois que le médicament est sous la peau, on peut aussi, s'il y a une intolérance ou si on veut arrêter le traitement avant pour une raison X ou Y, c'est possible, on peut retirer.
Alors, c'est un avantage potentiel de notre technologie. On l'a démontré sur des essais in vivo, hein, qu'on pouvait effectivement visualiser
La fameuse petite boule qui se forme
sous
la peau.
Voilà, par échographe, et puis la retirer le cas échéant. Ce qui est normalement ne sera pas nécessaire.
Je voudrais qu'on dise un mot, Elisabeth, avant de faire une pause, du bon usage du médicament. C'est important à ce moment-là de l'émission.
Oui, c'est important. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un rapport du professeur Bégaud qui a été remis en 2017. Et trois critères ont été retenus dans ce rapport. D'abord, pour optimiser le plus possible un médicament, d'abord, il y a la prescription. Il faut que l'utilisation de ce médicament soit totalement justifiée. Ensuite, il y a les paramètres de chacun qui doivent être pris en compte par le médecin. Les contre-indications, si la personne est en surpoids, s'il y a des facteurs héréditaires, prendre en compte les paramètres particuliers. Et enfin, il y a les conditions de l'usage du médicament, c'est-à-dire le dosage, le rythme, la durée du traitement, comment cela va être surveillé. Il faut que ces trois critères soient conformes. Et là, on parle de bon usage de médicaments.
On reste ensemble et on continue à parler innovation en matière de santé aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h11.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous ne voulez pas apprendre le Vidal par cœur avant de prendre un traitement? Pour que les notices des médicaments ne soient plus une langue étrangère, Synapse a vulgarisé les choses. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1. Vous en avez la preuve tous les jours entre 13h et 14h avec vos invités Raphaël Duchemin. Et aujourd'hui, on parle santé. Quelles sont les innovations qui existent, les innovations françaises pour nos médicaments? Vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas, une émission passionnante. Toutes vos questions, vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1 et au standard, le 3921.
Alors, on a tous déjà déplié évidemment les notices du médicament prescrit par le médecin et soyons honnêtes, hein, la plupart du temps, les lire nous laisse plutôt perplexe, sauf peut-être Elisabeth qui s'y connaît. Au mieux, on comprend un mot
sur
deux.
C'est une de mes passions, effectivement. Une autre.
Au pire, on s'angoisse en lisant notamment les effets indésirables. Bonjour Clément Goers.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et vous êtes aussi cofondateur de Synapse Médecine. Avec deux de vos amis, vous avez créé ce que on peut appeler le Google du médicament. Vous êtes parti en fait du constat qu'il y avait un nombre important de décès qui étaient liés justement au mauvais usage des médicaments. Je crois que c'est entre 10 et 30 000, c'est ça?
Tout à fait.
Et vous vous êtes dit, il faudrait peut-être changer les choses.
Exactement. Je suis très content que le rapport Bégaud ait été cité juste avant, parce qu'on est notamment parti de ce rapport. Entre 10 et 30 000 décès chaque année, rien qu'en France, liés au mauvais usage du médicament, jusqu'à 150 000 hospitalisations évitables, et c'est des chiffres qui sont conservateurs. Donc on est parti de ce constat, et un constat également dans notre pratique quotidienne, la nôtre en tant que médecin et celle de nos collègues, qu'il y avait une frustration de la part des professionnels de santé dans la manière d'aller rechercher de l'information pour bien prescrire des médicaments ou bien délivrer ces médicaments.
Parce que vous vous aperceviez finalement en situation qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes à apporter peut-être,
exactement,
à rajouter à la
notice.
Bien,
il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, bien prescrire ou bien délivrer un médicament, c'est devenu extrêmement complexe. Il faut aller chercher de l'information sur le patient, sur le médicament. Et ces informations, elles sont parfois dans 5, 10, 20 sources différentes. En général, c'est du texte, il faut le déplier. Et ça, en pratique clinique quotidienne, c'est juste impossible pour un professionnel de santé de le réaliser. Donc on a dit qu'on allait essayer d'apporter une réponse concrète pour faire ça. Qu'est-ce qu'on fait chez Synapse? En fait, on a créé une plateforme d'intelligence artificielle pour le bon usage du médicament. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des algorithmes qui, chaque nuit, inlassablement, parcourent ces fameuses sources de référence sur le médicament. Donc les notices, on les appelle les RCP pour les professionnels de santé, mais également des sources de référence éditées par la Haute Autorité de Santé ou par d'autres autorités.
Il peut y
autorités,
avoir des contributions,
exactement,
comme les hôpitaux par et exemple, un retour des médecins directement?
Non, simplement des sources qui sont vraiment certifiées conformes par la Haute Autorité de Santé ou d'autres institutions. Et nos algorithmes, ils vont lire du texte comme ça, inlassablement, chaque nuit, les comprendre automatiquement.
Et
les
ils vont venir ajouter.
Exactement. Avoir vraiment une connaissance médicale qui soit toujours à jour et toujours fiable à l'échelle de la journée. Et derrière, ça se concrétise très simplement dans un produit qui est effectivement le Google Assistant du médicament. Et pour un professionnel de santé, il peut poser sa question, par exemple, comment je prescris du méthotrexate à un patient qui a une insuffisance rénale? Une question comme ça, il l'écrit ou il la pose à l'oral. Et Synapse va lui répondre automatiquement la bonne réponse, toujours fiable.
Et on aura la certitude que tout a été remis à jour
à moins
de 24 heures.
Parce que l'une des grandes forces de Synapse, c'est qu'on cite toujours la source, même s'il y en a plusieurs, même si on a fait un chemin de déduction, on est capable d'aller citer la source avec la date. Et donc pour le professionnel de santé, c'est l'assurance qu'on n'est pas en train de lui raconter n'importe quoi.
Et vos sources sont diverses, sont multiples?
Nos sources sont multiples, tout à fait. C'est vraiment le travail de fond qu'on fait avec nos algorithmes, qu'on fait avec notre plateforme qui est brevetée. C'est une technologie en fait, qui vient de l'INSERM et du CHU de Bordeaux, sur lequel il y a eu plus de 2 ans de R&D. et on est capable d'intégrer plusieurs sources.
Bordeaux, justement, c'est là où vous êtes installé. Hein. Vous dites qu'il y a un véritable écosystème là-bas, justement, pour tout ce qui est médical.
Ah, tout à fait. On commence à parler même de Health Tech Valley là-bas, parce qu'en fait, il y a une densité vraiment de projets dans le domaine de la e-santé. Il y a un CHU d'excellence qui est souvent classé suivant les années comme le premier CHU français. Et puis, il y a énormément de start-up, de projets dans ce domaine. Et ça commence vraiment sur un territoire assez restreint finalement à avoir une très forte densité. Et c'est vraiment bien parce qu'on sait que il y a le modèle de la Silicon Valley. C'est comme ça qu'en fait des projets se renforcent et émergent en discutant les uns avec les autres.
Laurent, le coach.
Poussons la logique en fait, Clément. C'est-à-dire que ce que vous offrez aujourd'hui, bien sûr, est destiné à un client qui est le médecin. Mais aussi, en même temps, vous êtes un peu comme blockchain, c'est-à-dire que potentiellement, si on pousse l'idée jusqu'au bout, il y a une forme de désintermédiation, parce que vous allez créer du savoir, qui est un savoir qui va aussi minimiser progressivement, finalement, une partie du savoir du médecin. Donc, est-ce qu'à terme, il y a potentiellement, je ne parle pas du risque, je crois que c'est un progrès, mais la possibilité qu'un jour, un système comme ça remplace même la prescription du médecin?
Je ne pense pas du tout, parce que finalement, la prescription devient de plus en plus complexe et toute l'information n'est pas rentrable dans un algorithme. Le médecin, il a une connaissance de son patient, il a une connaissance d'aspects parfois sociaux ou un terrain qui est particulier, de l'entourage qui va lui permettre à la fin d'adapter la prescription. Et ça, honnêtement, un algorithme n'en sera jamais capable ou alors vraiment dans très très longtemps.
Et cela dit, ça va changer la nature de l'activité du médecin.
Tout à fait, mais il y a énormément de choses en ce moment qui sont en train de changer. L'activité du médecin et l'activité des professionnels de santé d'une manière générale. Donc nous, on est vraiment là en aide, en complément pour gagner du temps médical. On sait aujourd'hui que c'est une ressource qui est très rare. Donc c'est simplement une aide pour gagner du temps, pour que le médecin puisse se concentrer sur son cœur de métier, qui est la globalité du patient.
Ça a démarré il n'y a pas très longtemps, 18 mois seulement. Ça y est, vous avez lancé en mars. Combien d'utilisateurs aujourd'hui?
Alors, j'évite de donner des chiffres parce que ça évolue tellement vite qu'ils sont toujours obsolètes, mais c'est plusieurs centaines de médecins. Ouais. On avait commencé par 6 mois de programme de test avec plus de 300 médecins qui nous donnaient du feedback quotidiennement. On a lancé en mars. Aujourd'hui, on travaille avec, je vous l'ai dit, plusieurs centaines de médecins, mais également avec des hôpitaux, avec des services de téléconsultation, avec énormément d'acteurs qui nous rejoignent. Et oui, la société a 18 mois. On a levé 2,5 millions qu'on a annoncé. On a lancé cette levée de fonds en mars. Et aujourd'hui, on est une équipe de 16 personnes, bientôt 20. Donc ça va très vite.
Ça va très vite. Et vous allez voir que ça va très vite dans tout le secteur. On se retrouve dans un instant.
Il est 13h20.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on reste dans cette problématique de la prise de médicaments. C'est un vrai problème. Alors pour le résoudre, eh bien une autre entreprise française, elle, a inventé un pilulier intelligent. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1. La France innove et on parle santé aujourd'hui. Nous découvrons les innovations françaises pour nos médicaments, pour nous faciliter cette prise de médicaments au quotidien. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à nous apporter vos témoignages aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, le standard d'Europe 1, Raphaël.
Et si demain, au lieu de rentrer de la pharmacie avec un sac de boîtes de médicaments, vous aviez tout simplement à votre disposition un pilulier avec le nombre exact de cachets à prendre? Bonjour Karine Blocher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Medicimo. Alors vous êtes dans le monde du médicament depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, on entend, c'est vrai, beaucoup parler dans le débat sociétal du médicament à l'unité. Vous proposez de donner justement aux patients et aux pharmaciens la possibilité de faire un pilulier avec, dans chaque case, les médicaments à prendre. Il est avec nous, ce pilulier. On peut le voir sur Europe1.fr. Expliquez-moi comment vous est venue l'idée.
Bonjour. Donc, l'idée est toute simple. Il s'agit d'aider les patients à prendre des médicaments déjà tout préparés. Et plutôt que de les préparer eux-mêmes, qu'ils demandent à leur pharmacien de le faire à leur place. Donc, ça signifie, comme vous l'avez effectivement bien précisé, que le pharmacien ne va plus délivrer 12 ou 15 boîtes de médicaments, mais bien 3 ou 4 piluliers hebdomadaires utiles pour le mois. Donc c'est une simplification pour le patient et c'est la mise en avant d'une expertise pour le pharmacien.
Ouais, c'est lui qui compose. Cette solution, vous l'avez inventée en 2005, c'est ça ?
Oui, alors nous l'avons inventée. Alors la première étape, ça a été d'imaginer déjà de remplacer des piluliers plastiques.
Oui.
Réutilisables, pas toujours très propres, par des piluliers à usage unique de type, vous voyez, calendrier de l'Avent.
Oui.
D'associer à ce pilulier à usage unique une plateforme numérique pour que le pharmacien puisse le préparer dans les bonnes conditions de sécurité.
Ça signifie que le médecin envoie le patient avec l'ordonnance. L'ordonnance va être scannée par le pharmacien et il va aller, non pas ouvrir les boîtes, il va chercher des médicaments à l'unité pour les mettre dans les petites cases.
Alors, plusieurs étapes sont possibles et la plus simple, c'est que le patient demande à son pharmacien, lorsqu'il va dans la pharmacie, de lui délivrer des piluliers plutôt que de lui délivrer des boîtes. Hein, ce sont des piluliers bleus, flashy, sympas, tout propres. Pour ce faire, le pharmacien va utiliser cette plateforme, va donc les préparer à l'avance. Lui délivrer donc dans des très bonnes conditions de sécurité sanitaire.
Comment est-ce que vous faites pour gérer les données personnelles ? Est-ce que c'est un problème aujourd'hui pour votre solution ?
Alors, dans le monde du médicament, nous sommes des nouvelles technologies, donc nous faisons partie de tous ceux qui sont en hébergement de données de santé. Donc, nous garantissons la confidentialité et la sécurité des données du patient, hein, puisqu'il s'agit bien de piluliers.
Elisabeth ?
Mais puisque c'est le pharmacien qui va donc préparer le pilulier, ça ne va pas lui donner plus de travail et donc plus de temps ? Et résultat, il passera moins de temps avec le patient, le client ?
Alors, vous posez une question qui est essentielle et qui nous amène à parler de l'intérêt du pilulier pour améliorer la qualité du soin. Alors, non, ça ne prend pas plus de temps parce que les 7 minutes de préparation du pilulier, des 4 piluliers pour un mois, viennent en moins du temps que le pharmacien passe au comptoir à expliquer les médicaments boîte après boîte. Et donc, en fait, que se passe-t-il dans la pratique ? On l'observe, le pharmacien qui pratique la mise en pilulier sécurisé l'observe, eh bien, la relation de soins va changer. C'est-à-dire que le patient ne vient plus chercher des boîtes, il vient chercher un traitement. Et en fait, cette transformation de modèle, ce qu'on appelle l'efficience du soin, c'est-à-dire que le patient se sent valorisé, la relation entre le patient et le pharmacien.
Parce qu'il voit le début et la fin.
C'est une relation de soins. C'est-à-dire qu'on a les 4 piluliers, on va donc parler de l'information sur le médicament, on va parler de l'observance, de ce qui est pris et pas pris, des difficultés à prendre certains médicaments et pourquoi. Bref, on bascule de la logique de la boîte à la logique du soin.
Laurent ?
Dans cette même logique, avant l'émission, on a évoqué un cas moi, qui m'a beaucoup frappé, qui est qu'en fait, un patient qui ne se soigne pas ne reste pas dans le même état. On avait parlé d'homéostasie, c'est-à-dire que soit on se soigne, on s'améliore, soit on se soigne pas, on se détériore. Vous pouvez expliquer ça un peu ? Parce que c'est très frappant, ça. Pour moi, j'avais toujours eu le sentiment, y compris comme malade, que bon, à la limite, si je prends rien, je reste comme je suis.
Caroline Blocher ?
Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, soit on se soigne pas, et on se détériore, c'est vrai, puisque le médicament, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit pris. Donc, si vous ne prenez pas vos médicaments, vous rentrez dans la cohorte malheureuse des personnes en risque d'accidents médicamenteux. Et 4 millions de Français sont dans cette situation aujourd'hui.
Et vous avez aujourd'hui 50 000 patients, c'est ça, qui sont oui. Fidèles aux piluliers intelligents ?
Oui, on a 50 000 patients qui constituent déjà une base équipée en France et qui l'utilisent tous les jours. Et pour répondre à l'autre partie, la partie plus positive, c'est que si vous avez effectivement bien conscience que pour être efficace, le médicament doit être pris, dans ce cas-là, vous allez mettre en place une stratégie. Cette stratégie peut être de l'information et de la mise en pilulier.
Et ce qui est pratique aussi, c'est que vous voyez, on a plus la possibilité de se tromper non plus entre les boîtes et avec les noms parfois un petit peu barbares, notamment des génériques. On reste ensemble et on continue à parler des médicaments et de la santé aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous, au 39-21, vous avez peut-être des questions à poser à nos invités. On vous attend, c'est La France qui bouge. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 aujourd'hui. On parle innovation en ce qui concerne les médicaments. Vos questions dès maintenant, 39-21 et Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Vos questions pour nos invités, Christophe Doua, fondateur de Médincelle, Clément Goers, médecin et cofondateur de Synapse Médecine et Caroline Blocher, présidente de Médicimo. Toujours avec nous, notre coach, Laurent Chauin, DRH du groupe Mazars, et Elisabeth Assayag qui est là. On a déjà quelques appels au 3921 et, oui. et quelques questions sur le hashtag Europe 1.
Alors, il y a Sylvie qui nous a appelé au 3921. C'est une question pour vous, Christophe Douat, puisqu'elle dit « Je suis greffée d'un rein. Je prends des anti-rejets toutes les 12 heures. Je veux savoir si le nouveau système injectable peut être mis en place pour les greffés et pour qu'ils puissent avoir une injection qui dure seulement 10 jours. Est-ce que ça, c'est possible ?»
Christophe Douat.
Merci beaucoup pour cette question qui est fondamentale, hein, un sujet qu'on connaît très bien à Médincelles, puisqu'aujourd'hui, 30% des organes qui sont transplantés sur des patients qui ont des rejets parce qu'ils ne prenaient pas leur traitement anti-rejet. Hein. Donc c'est avec les conséquences qu'on peut imaginer sur le manque d'organes, les patients et le système de santé. Oui, c'est un sujet sur lequel on travaille, qui n'est pas facile parce que la molécule est complexe. Mais on a de très bons espoirs d'y arriver et on vise non pas 10 jours, mais un mois.
D'accord. Bon, donc
mais ça sera au mieux pas disponible avant quelques années parce que ça prend du temps à développer nos formulations. Hein. Et puis chaque fois qu'on a par exemple une formulation qui dure un mois, ben chaque test prend un mois.
Oui, et vous en avez une dizaine en cours
on
aujourd'hui.
On en a 10, oui, tout à fait.
Anissa. On a une question de Biquette des Villes sur Twitter qui nous dit « Qu'en est-il de Medicimo ?» Donc c'est ce pilier oui. qu'on peut avoir en pharmacie. « Qu'en est-il de Medicimo au niveau écologique pour les déchets ?»
Ah, alors justement, vous en parliez, Caroline.
Oui, tout à fait, le pilulier est recyclable.
Pilulier recyclable. Et puis comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a moins de boîtes, il y a moins de conditionnement, donc il y a aussi un effort en théorie de protection.
Oui, et
on
surtout...
On peut penser aussi que les laboratoires envoient aussi en gros packaging, donc c'est peut-être plus simple aussi.
Et surtout, oui, bien sûr, et de façon plus générale et très efficace, la mise en pilulier évite que les médicaments soient non utilisés, qu'on les retrouve dans les nappes phréatiques.
C'est recyclable ou réutilisable ?
Le pilulier est à usage unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser deux fois. Hein. C'est la garantie de sa sécurité.
Pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre les médicaments ?
Non, surtout pour que c'est la garantie de la sécurité et de l'inviolabilité de l'objet. À partir du moment où vous avez percé une alvéole, elle est percée, vous ne pouvez pas la reconstituer pour la percer la semaine d'après. Donc c'est essentiel. Et quant aux qualités écologiques de ce produit, elles sont essentielles et vraies par rapport à l'objet et plus globalement à l'heure où nous sommes tous et vos auditeurs aussi sensibles à la politique écologique en France. Je souhaite préciser que la mise en pilulier évite le rejet de médicaments dans les nappes phréatiques.
Oui, c'est important. Aussi, ouais. Anissa ?
On a un message de Jean-Paul Bouteloup sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Génial.
Notre ami des trophées Let's Go France.
Exactement. Génial, la santé française innove pour mieux prévenir et soigner, mais aussi pour imaginer des nouveaux modèles de développement plus responsables. Médincelles gagnant des trophées Let's Go France en est un super exemple.
Justement, tourné vers l'écologie, hein. C'est important de le dire, parce que c'était cette nouvelle économie circulaire dont nous parlons régulièrement ici. C'était important pour vous d'y participer comme ça.
Merci.
Dans ce modèle-là. Un mot sur votre solution, Clément. Quand est-ce que ce sera pour nous, les patients ? Est-ce que vous y pensez ?
On y pense très fortement. C'est une question que j'ai à peu près tous les jours.
J'imagine.
Donc c'est une évidence pour nous que Synapse doit également s'adresser aux patients, puisque le patient, c'est l'acteur principal par définition de son propre traitement. Et on a une version pour les patients dans les cartons qu'on est en train de développer avec une branche de l'assurance maladie et qui sera lancée très prochainement. Elle est déjà en test. Donc voilà, une annonce bientôt.
Bon, avec beaucoup d'intelligence artificielle à notre service. Justement, Elisabeth, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, je voudrais qu'on conclue là-dessus parce que vous avez trouvé d'autres solutions pour prendre les médicaments.
Oui, alors... pas forcément français pour prendre des médicaments. Il y a un logiciel qui a été conçu par des Américains, Decagon, vous connaissez peut-être.
Je connais très bien Stanford. Oui.
Voilà, de Stanford.
Vous avez bossé là-bas.
Tout à fait.
Qui peut aider les médecins à prendre des décisions sur les médicaments à prescrire, mais aussi aider les chercheurs à trouver de meilleures combinaisons de médicaments pour traiter certaines maladies. Parce que voilà, je vais vous rappeler les chiffres, hein, pour vous donner une idée. Pour 5000 médicaments sur le marché, il y a environ 1000 effets secondaires connus. Et cela représente près de 125 milliards d'effets secondaires possibles. Donc là, l'intelligence, les algorithmes pourraient fortement nous aider. Et heureusement, vous êtes là avec Synapse Médecine.
Et vous êtes là tous les trois. Merci d'être à notre service, au service de la santé pour les Français. Mais pas seulement, hein, puisque ce sont des solutions qui sont applicables partout dans le monde. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
Et on reste ensemble dans deux petites minutes. On va déguster et savourer l'histoire des anis de Flavigny. C'est l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
La France bouge tous les jours entre 13h et 14h sur Europe 1. Et chaque jour, Raphaël Duchemin, vous nous proposez l'entreprise française qui va bien. Et alors aujourd'hui, on va faire un véritable bond dans l'histoire.
Hein. Eh oui, cette entreprise, regardez, elle nous fait remonter le temps. Bonjour Catherine Trouba.
Bonjour.
Vous dirigez, ils sont avec moi là, les anis de Flavigny. Si on remonte vraiment, mais alors vraiment, vraiment très très loin, c'est Jules César qui ramène la graine d'anis avec lui. Alors, il est sur le point d'attaquer Vercingétorix,
voilà.
C'est ça ?
Il veut attaquer Vercingétorix, il se met sur une petite colline en face d'Alésia.
Qui n'est pas encore Alésia ?
Qui
si ?
N'est pas encore Alésia.
Ah bon ?
Et ces pharmaciens avaient avec eux des graines d'anis comme d'autres épices.
Et à côté de lui, il a un soldat qui s'appelle Flavien.
Oui, voilà. Donc ce Flavien, il lui offre la colline à la fin de la guerre. Flavien reste à Flavigny, donne son nom, installe sa villa gallo-romaine. Et ça, c'est 52 avant Jésus-Christ.
Oui.
Et longtemps après, en 719, à l'époque de Charles Martel, qui est le grand-père de Charlemagne, ben, se fonde une abbaye sur les traces de la villa gallo-romaine.
Et ce sont les moines qui vont commencer à faire avec cet anis de Flavigny les fameux bonbons.
Voilà, donc ça sera une dragée qu'on appelait un épice de chambre.
Pourquoi ?
Alors vous parliez de pharmacie tout à l'heure. Mais en fait, tous les médicaments du Moyen-Âge, c'était des épices de chambre. On les enrobait d'une couche de sirop pour mieux faire passer la pilule.
Et en l'occurrence, c'était pour aider à la digestion, l'anis ?
Voilà.
En 1923, alors là on refait un bond dans l'histoire, plus près de nous évidemment, c'est votre grand-père qui reprend la fabrique. C'est là que les anis entrent dans votre famille. La marque, elle est déjà connue parce qu'il y a eu un prédécesseur qui lui est arrivé à l'exposition universelle avec les fameux anis de Flavigny.
Oui, monsieur Gallimard, Jacques Inmé, il a eu une idée géniale, c'était avec Gustave Eiffel qui était dijonnais, donc un gars du coin. De mettre des petits kiosques en bois présentant les anis pour que les gens les goûtent au moment de l'exposition universelle au pied de la tour Eiffel.
Et alors votre grand-père, il a une idée formidable, il va mettre les premiers distributeurs, c'est ça, à disposition. Vous nous avez amené une photo, alors ça c'est un distributeur
voilà.
De l'époque, c'est ça ?
Alors en fait, dans les distributeurs automatiques qui étaient dans le métro ou dans les gares, il n'y avait que le chocolat Meunier et les anis de Flavigny. Et ça a fait des générations et des générations de personnes qui ont connu notre bonbon grâce à cette idée de génie.
C'est votre père qui va reprendre la suite. On est en 1960-1965.
Voilà, c'est ça.
Et c'est lui qui va finalement faire prospérer la production.
En fait, grand-père a eu tellement d'idées de génie que papa, lui, il a dû assurer pour pouvoir fabriquer les quantités nécessaires. Et puis, il a surtout beaucoup travaillé sur le process, la façon de travailler, pour bien transmettre le métier. Donc, chacun avait un talent différent. Et moi, j'ai pu profiter, les voir tous les deux et voir... en fait, il faut avoir des idées, mais il faut aussi... Donc là, on peut imaginer et délirer dans tous les sens, mais il faut aussi être très, très rigoureux sur la recette.
Vous prenez le relais en 1990 avec votre sœur, hein, c'est ça ?
Alors Emmanuel, oui, ma petite sœur, ouais. qui est avec moi. Il y avait mes frères, mais maintenant on est toutes les deux.
Et alors vous allez faire en sorte justement qu'on trouve ces petites boîtes un petit peu partout. Votre père, lui, il les a mis sur les autoroutes.
Voilà.
Vous allez au-delà.
En fait, comme grand-père les a mis dans les gares, papa sur l'autoroute, et ben moi je me suis dit dans les aéroports. Et puis en même temps, il y avait une grande vague logique sur la nature, un retour à la nature. Donc moi, je me suis dit, mes consommateurs sont des gens qui aiment les produits naturels, faits main. Et du coup, j'ai eu l'idée de les mettre dans les jardineries.
Que dit notre coach de cette
histoire ?
Mais ça
va même plus loin, parce que moi, je suis frappé par le choix de vos importateurs. C'est-à-dire qu'il y a une démarche écologique derrière, qui consiste à ne pas finalement accepter n'importe quel partenaire.
Voilà.
Donc, ça, c'est vraiment très intéressant comme démarche.
Eh bien, en fait, du coup, je suis partie tout autour du monde. C'est important d'aller choisir, si la personne veut de nous, le partenaire avec qui on veut distribuer nos bonbons. Parce qu'on ne cherche pas à être vendu partout, n'importe comment, mais il faut que ceux qui nous transportent, nous connaissent.
Reflètent vos valeurs. Quoi,
voilà.
Finalement.
Parce qu'en fait, nos consommateurs, il faut qu'ils sachent les trouver. Pour savoir les trouver, il faut qu'ils sachent pourquoi on aimait.
30% de ce que vous fabriquez est présent dans 40 pays. Vous avez 9 parfums dans la gamme classique, 7 dans la gamme bio. Et on vous appelle en Chine le bonbon des amoureux.
Oui, famille, le bonbon des amoureux français.
Le bonbon des amoureux français à la une aujourd'hui avec nous. C'est les anis de Flavigny. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Et il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle aide les entrepreneurs à se lancer, ceux qui n'ont aucune aide justement, les réfugiés, les décrocheurs, les jeunes issus de milieux défavorisés. C'est Connexio et c'est la solution dans un instant.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et lors des dernières minutes de cette émission, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour.
Lutter contre la fracture numérique dans notre société, c'est l'enjeu de la solution d'aujourd'hui. Elisabeth, vous avez trouvé Connexio, une start-up qui accompagne des entrepreneurs issus de milieux défavorisés.
Oui, savoir utiliser un ordinateur, Internet, aujourd'hui on le sait, c'est indispensable pour n'importe quel secteur d'activité. C'est peut-être ce langage-là qui peut servir à combler le fossé entre les cultures et c'est ce qu'ont pensé les fondateurs de Connexio. Cette start-up propose des formations gratuites au numérique pour les réfugiés, pour les décrocheurs scolaires par exemple, pour les aider à s'intégrer puis à trouver du travail. 2 programmes différents sont proposés, un sur les bases de l'usage de l'informatique, l'autre pour devenir développeur informatique. Pour faciliter leur intégration professionnelle, Connexio propose 60 heures de formation avec la maîtrise des outils de base, la maîtrise d'Internet et tout cela correspond au passeport de compétences informatiques européen. Connexio a été fondée en France par 2 Américains.
Et oui, et l'une d'elles est avec nous. Bonjour, Jin Guo.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes la cofondatrice de Connexio. Vous avez formé combien de personnes depuis que vous avez commencé?
Jusqu'à aujourd'hui, on avait formé 200 personnes.
200?
Oui, avec un taux de sortie positif extrêmement positif à 70%. Donc ça veut dire, en fait, c'est 70% des gens qui ont soit retrouvé un travail, ont repris leurs études ou ont devenu en fait, des entrepreneurs en fait, pour lancer leur propre projet.
Mais alors, qui sont ces personnes? Comment elles arrivent vers vous?
Ouais.
Et ensuite, que leur proposez-vous?
Oui, bien sûr. Donc, en fait, sur notre site web, connexio.eu, on reçoit des candidatures en permanence. Aujourd'hui, on a presque 300 personnes sur la liste d'attente pour nos formations. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a en fait, une trentaine de structures avec qui on travaille en partenariat aujourd'hui, qui nous envoient des candidats aussi, en plus sur notre site web, les réseaux sociaux. Une fois, en fait, on a reçu la candidature, on procède, en fait, on les fait venir pour des entretiens physiques. Et ensuite, on les sur les niveaux qui correspondent à leurs besoins de départ.
Ils sont tous pris ou vous avez des critères particuliers ?
Oui, justement, une de nos missions cette année, c'est de pouvoir augmenter notre capacité de formation.
Donc d'accueillir tout le monde.
Oui, de vraiment trouver une manière d'accueillir tout le monde. Mais par contre, on doit travailler pour assurer que les projets professionnels de chaque personne correspondent au bon niveau en fait, des modules dans nos formations.
Oui.
Donc il y a des personnes qui viennent simplement, comme vous avez évoqué, pour les bases informatiques où on se trouve dans une situation aujourd'hui, 90% d'emplois exigent un niveau minimum de base informatique. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner justement jusqu'au bout dans leur parcours.
Alors, comment peut-on vous aider puisque vous dites qu'il y a plus de 300 personnes en liste d'attente? Vous en êtes où? Vous êtes en campagne de crowdfunding? Où vous en êtes là en ce moment?
Oui, aujourd'hui, on cherche des partenaires justement entreprises aussi engagés à nos côtés. Non seulement, en fait, on travaille, on se spécialise dans les formations numériques.
Vous avez été incubé à la Station F, je crois.
Oui, justement à la Station F. Et ensuite, on travaille plutôt aussi avec les entreprises pour pouvoir soit placer nos talents ou trouver des activités en fait, de coaching. On cherche en fait, des coachs professionnels en fait, qui peuvent engager pour faire la partie non seulement technique, mais plutôt sur les compétences transversales, les soft skills avec nos apprenants.
Je vous prête le mien une seconde de coach, Laurent.
D'ailleurs, oui, pas une question, mais un coup de chapeau, parce que en fait, Binta, comme vous, Jean, vous êtes les produits aussi de bourses qui ont été offertes à des gens qui faisaient des brillantes études et en Silicon Valley, qui avaient démarré une carrière qui aurait pu vous conduire à d'autres orientations. Donc en fait, je pense que c'est très très important d'avoir comme ça des soutiens. Ces bourses sont là pour ça aussi. Des associations comme les vôtres, nous chez Mazars, on a les déterminés aussi qui travaillent comme vous à ce travail d'insertion. Donc c'est vraiment
ouais,
c'est
Moussa Camara qu'on a reçu.
Voilà,
ici,
exactement.
Et qu'on connaît bien.
Et je crois que vous allez fonder un programme similaire au Malawi.
Oui, on avait lancé donc cette année notre objectif. On forme 500 personnes avec un premier projet au niveau international où on forme en fait des réfugiés dans un camp de 40 000 personnes au Malawi. Mmh.
Ça s'appelle Connexio. Vous pouvez évidemment les rejoindre si vous faites partie de ces publics et que vous êtes à l'écoute. Ils étudieront vos dossiers. Merci à Laurent Chauvin qui était notre coach
avec
aujourd'hui.
Plaisir,
merci à Elisabeth qu'on retrouve demain. On s'intéressera au vin puisqu'aujourd'hui, c'est le concours du meilleur sommelier de France.